Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous sommes aujourd'hui le 8 mars et c'est la date de la journée internationale des femmes. Franck Ferrand l'a évidemment bien noté. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est en 1977, figurez-vous, que les Nations Unies ont invité les pays du monde entier à célébrer le 8 mars une journée pour le droit des femmes. Et quand on sait la situation faite aux femmes dans certains pays, on ne peut évidemment que s'en féliciter. Pour les mouvements féministes, ce 8 mars est un vieux rendez-vous. Le 8 mars 1910, en effet, à Copenhague, des femmes ont manifesté à l'initiative de la représentante allemande de l'internationale socialiste, Clara Zetkin. Mais ce n'est pas cet événement qu'on célèbre aujourd'hui. Il s'agit officiellement de commémorer une révolte d'ouvrières de l'industrie textile en 1857, pardon, aux États-Unis. En fait, pour tout vous dire, cette révolte est totalement fictive, légendaire. Et si les féministes des années 50 l'ont inventée et placée en 1857, c'était pour faire un clin d'œil à l'année de naissance de Clara Zetkin, justement.
Alors, à l'occasion de cette journée spéciale, vous avez choisi de nous parler d'une femme d'exception.
Oui, une des premières femmes libres en France dans ce milieu du 19e siècle, qui était aussi celui de Georges Sand, en attendant Sarah Bernhardt. Nous allons évoquer une femme peintre, une artiste animalière de premier ordre, qui par ailleurs a aussi été la première femme artiste en France à recevoir la Légion d'honneur. Je veux parler de Rosa Bonheur. Et ce sera l'occasion d'évoquer ces couples extrêmement discrets, pour ne pas dire absent de l'histoire officielle, quelques couples de femmes.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Se souvient aujourd'hui de cette femme si singulière, en son temps mondialement connue comme la plus grande peintre animalière, l'auteur d'au moins 2 toiles célèbres ultra réalistes, Labourage Nivernais et Le Marché aux Chevaux. Qui se souvient vraiment de cette femme qui fut la première artiste à recevoir des mains de l'impératrice Eugénie la Légion d'honneur, puis à être élevée au rang d'officier dans cet ordre par le président Carnot? Les visiteurs qui découvrent à Thomery, près de Fontainebleau, dans le château de Bie, l'atelier de cette grande artiste resté intact depuis sa mort en 1899, tous ces visiteurs ont forcément envie d'en savoir davantage à son sujet. Eh bien, c'est possible notamment grâce aux 2 belles biographies que, dans des genres différents, viennent d'écrire Marie Borin chez Pygmalion et Gonzague Saint-Brice chez Robert Laffont. Gonzague est avec nous aujourd'hui dans ce studio. Je cite Marie Borin à propos du féminisme de Rosa Bonheur. En choisissant la peinture animalière, écrit-elle, Rosa Bonheur ouvre une voie inédite pour les femmes jusqu'alors à peine tolérées et à peu près cantonnées dans l'art du portrait ou des bouquets de fleurs. Elle démontre l'inanité des théories sexistes sur la faiblesse des femmes, leur irrationalité, passivité et autres discours mutilants et leur dangerosité. Elle prouve que la définition d'un être est un enfermement criminel et renvoie dos à dos les sexistes et les racistes, esclavagistes en tout genre. Immédiatement taxée de virile, Rosa Bonheur prouve au contraire que l'art n'a pas de sexe, qu'une femme qui aime courir dans les champs et porte le pantalon est une vraie femme. Cela ne lui sera jamais pardonné, pas plus à son époque qu'à la nôtre. Et c'est vrai que dans une époque où les femmes étaient cantonnées dans des rôles, des places et même des attitudes extrêmement déterminées, Rosa, elle s'appelle en réalité Rosalie Marie, arbore des cheveux courts, on est quand même même à 75 ans de la mode à la garçonne. Elle fume des cigares à vannes, elle n'hésite pas à porter des vêtements d'homme et notamment des pantalons, ce qui l'oblige d'ailleurs à demander une licence officielle, on appelle ça une permission de travestissement auprès de la préfecture de police. De telles autorisations étaient attribuées au compte-gouttes, il faut le savoir. On en avait donné une notamment à Jeanne Dieulafoy, vous savez, l'épouse du célèbre archéologue, ou à Marguerite Boulanger, une maîtresse de Napoléon III. Pour la première, le prétexte était la difficulté à circuler en robe sur un chantier de fouilles, et pour la seconde, il s'agissait essentiellement d'une coquetterie tirant en prétexte d'un goût prononcé pour la chasse au tir. Rosa Bonheur, pour sa part, pouvait arguer de la nécessité d'aller chercher ses modèles, souvent des vaches, des bœufs, des chevaux, là où ils se trouvaient, c'est-à-dire dans les champs. En vérité, le côté garçon manqué de Rosa, tel qu'il s'exprime dès son enfance, a été souligné par la plupart de ses biographes. Il serait plutôt dénoncé par Marie Borin, qui voit là une sorte de procès d'intention. Peut-être pas. Que Rosa Bonheur ait été une femme très pure, très chaste, je n'en doute pas un instant, mais qu'elle ait eu un fort penchant au moins affectif pour les femmes, il me paraîtrait puéril de chercher à le dissimuler. Discrète, certes, Rosa Bonheur, mais en même temps dépourvue de ruse ou de faux semblants. « J'ai toujours mené une vie honorable, écrit-elle. Ma vie est sans tache. Je suis restée pure et n'ai jamais eu ni amant ni enfant. Si je ne suis point mariée, ce n'est pas que les offres m'aient manqué, mais je n'ai jamais voulu aliéner ma liberté afin de mieux m'acquitter de la mission sainte que je m'étais fixée. J'ai toujours voulu relever la femme. » Retenez bien cette phrase. Elle est sans doute la clé pour comprendre la part publique, la dimension sociale de l'incroyable destinée de cet artiste. J'ai toujours voulu relever la femme, c'est-à-dire j'ai toujours voulu montrer que la femme n'était pas ou pas seulement ce que des siècles de tradition occidentale avaient fini par en faire. Et en cela, Rosa Bonheur, on peut le dire, occupe une place insigne parmi les grandes éveilleuses, si vous voulez, parmi celles qui ont su repousser les horizons des femmes. Quant à la part intime et personnelle, quant aux élans du cœur, il ne fait aucun doute que Rosa, sans se départir de la vie honorable qu'elle revendique, a aimé au moins une femme et sûrement deux. La dernière sera la peintre américaine Anna Klump, qui a 35 ans de moins qu'elle et qui partagera la dernière décennie de sa vie. Quant à la première, Nathalie Mikas, elle fut l'alliée, la compagne, l'âme sœur, et ce, pendant plus de 50 ans.
Extrait de L'Acmé de Léo de Liebfranc.
C'est criminel d'interrompre une telle musique.
Oui.
Rosalie avait 14 ans quand elle a rencontré Nathalie, 12 ans. À cette époque-là, la petite fille posait pour le père de Rosalie, le portraitiste Raymond Bonheur. On peut parler d'affinité immédiate entre elles et sans doute d'un pur coup de foudre qui fait qu'elles ne se quitteront plus. J'ouvre le livre captivant de Gonzague Saint-Brice, celui qu'il consacre donc à Rosa Bonheur. Elle se nommait Nathalie Mika, s'écrit-il, chétive comme un oiseau dans sa robe de soie violette, mais le regard singulièrement attentif, fascinée tout de suite par la fille du peintre assistante aux séances de pose. Peut-on parler de coup de foudre ou d'attirance réciproque entre ces jeunes filles romanesques qui, c'est le moins qu'on puisse dire, vont demeurer pendant 50 ans particulièrement discrètes sur la nature de leur relation? D'une certaine manière, oui, mais avec toutes les précautions qu'il convient de prendre dans ce genre d'amour que les femmes, c'est une évidence, vivent si différemment des hommes qui aiment des hommes. Faut-il aller ensuite, comme le fait Gonzague, jusqu'à imaginer une relation homosexuelle entre Rosa et Nathalie? Vous savez que Marie Borin pense le contraire. Personne ne saura jamais quelle était la nature des relations entre ces deux femmes. Est-ce que c'est tellement important? Ce qui est certain, c'est qu'elles seront toujours là, l'une pour l'autre, jusqu'à ce que la mort les sépare en emportant Nathalie la première en 1888. Page 132, je lis page 132 du livre de Gonzague Saint-Brice, je lis ce très juste hommage à propos de l'installation dans le village de Bi de la peintre et de sa parfaite amie, Nathalie. Toute proportion gardée, écrit Gonzague Saint-Brice, cette installation rappelle d'autres lieux où d'autres couples féminins vont à leur tour se réaliser, celui de la rue de l'Odéon dans l'entre-deux-guerres où Adrienne Monnier et Sylvia Beach vont lancer chacune leur librairie maison d'édition, celui de la rue de Fleurus où Gertrude Stein et Alicia Toklas vont régner sur le Montparnasse des années folles, celui de Mount Vernon sur la côte est des États-Unis où Marguerite Yourcenar et Grace Frick vont vivre si heureuses, si créatives comme le furent en leur temps et parmi nombre de leurs consoeurs, Margaret Anderson et Jen Heap, Nathalie Barney et Liane de Pougy. La vérité sur le rapport entre les deux est difficile à saisir, vous l'avez bien compris. Je cite cette fois, Marie Borin. Si Rosa Bonheur avait été homosexuelle, en admettant qu'elle n'ose le revendiquer, elle n'aurait pas nié cette chose, elle se serait tue. Sa contemporaine Sarah Bernhardt l'assumait sans complexe, elle en aurait fait autant, ce qui aurait été une façon honorable de soutenir l'indépendance des femmes. Mais toute sa vie et jusque dans son testament, Rosa Bonheur réfute cette étiquette. Elle jure être restée pure, c'est-à-dire, dans le langage du XIXe siècle, vierge de toute relation sexuelle. L'indépendance d'esprit et le courage de cette femme d'honneur sont incompatibles avec un tel mensonge. J'ai envie de vous dire qu'à mon avis, la vérité se trouve peut-être dans un entre-deux que n'envisagent finalement pas nos deux biographes. Après tout, il est tout à fait possible d'aimer quelqu'un d'amour sans entretenir pour autant une relation sexuelle. Ce qui est certain, c'est que Rosa Bonheur aura toujours besoin de cette douce présence féminine à ses côtés. Et ce qui est frappant lorsqu'on regarde les photographies de la peintre dans son âge mûr, c'est l'incroyable virilité de son port, de ses traits. C'est l'espèce d'assurance mâle qui se dégage de sa personne. Regardez-la, saisie à bille dans l'intimité, avec un petit chien dans les bras, elle est en pantalon, jambes écartées, sa simple blouse de peintre sous un fort paletot, la tête couverte d'un gros feutre et la cigarette aux lèvres, très, très en rupture avec les critères féminins de l'époque. Et en même temps, quelle modernité! On pourrait croire cette photo prise un siècle plus tard. Quelle liberté, quelle indépendance, quelle volonté de faire changer l'image des femmes.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et Franck, vous recevez aujourd'hui sur Europe 1 Gonzague Saint-Brice, qui est écrivain, historien, journaliste bien connu des auditeurs d'Europe 1. Je vous rappelle le titre de son dernier ouvrage, Rosa Bonheur, Liberté et son nom, chez Robert Laffont.
Gonzague Saint-Brice qui a un peu son rond de serviette chez nous. Bonjour Gonzague.
Bonjour.
Merci d'être ici, fidèle au poste. Et merci d'avoir rendu ce bel hommage à Rosa Bonheur, qu'on connaît finalement assez mal. Il faut dire que la peinture animalière assez rurale de cette époque à moins la cote, en tout cas en Europe. Je sais qu'aux États-Unis, c'est très très prisé, mais ces gentilles vaches en train de pécer dans des champs, ces bœufs en train de tirer des charrues, ça n'est plus tellement le goût de notre époque, disons-le.
Et ce qui est extraordinaire, ça fait partie de toutes les libertés de Rosa Bonheur. C'est pourquoi j'ai titré mon livre « Liberté », son nom. Liberté de ses choix de vie, liberté dans son travail, dans son œuvre, et liberté aussi de ses choix de sujet, c'est-à-dire une peintre animalière qui a en plus la philosophie de cette relation entre les espèces. Et ça commence très tôt par une sorte d'éblouissement sensuel dans une étable qu'elle raconte elle-même, c'est une petite fille de 9 ans. « J'avais pour les étables un goût irrésistible, le plaisir que j'éprouvais à me sentir lécher la tête par quelque excellente vache que l'on est en train de traire. » Et cette espèce de shampoing d'amour qui a lancé cette relation qu'elle a avec les animaux et qui a fait le succès de sa peinture.
Et c'est vrai que les animaux qu'elle peint ont quelque chose, non pas d'humain, ça n'est pas anthropomorphique, mais quelque chose d'habité. Ils nous regardent en quelque sorte.
C'est vrai, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de peintres de paysages et de peintres animaliers qui étaient connus, mais aucun n'avait cette touche. Et qu'on pourrait dire aussi des touches de Rosa Bonheur, puisqu'elle va être aussi bien connue en Angleterre qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous allez à Orsay pour voir le labourage nivernais, vous voyez bien le regard de l'animal qui s'adresse à vous. Et moi, pourquoi j'ai écrit ce livre sur Rosa Bonheur? Parce que j'ai reçu un choc amoureux quand la première fois, au Metropolitan Museum de New York, j'ai vu le fameux tableau, le marché aux chevaux. Et l'autre jour,
oui, qui est d'une force, qui fait penser à du Géricault, mais une sorte de Géricault plus accessible, en fait, plus qui nous parle davantage, peut-être.
Vous avez tout à fait raison, Franck Ferrand, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que Rosa Bonheur est reconnue par ses contemporains, oui, saluée par Delacroix, saluée par Géricault, admiré par Camille Corot. Et vous savez, ce qui est extraordinaire dans ce tableau magistral du marché aux chevaux, c'est l'énergie, le mouvement. Et c'est Cornelius Vanderbilt, le milliardaire, qui va l'offrir au Metropolitan Museum de New York. Et à partir de ce moment-là, on est au moment de la conquête de l'Ouest. Figurez-vous que les Américains vont se renseigner pour savoir qui sont ces chevaux et commander des percherons pour aller à la conquête de l'Ouest.
Elle va devenir mondialement célèbre. Elle plaît beaucoup aux Anglo-Saxons. Il faut dire que le genre de la vache qui pèse tranquillement dans le pré, c'est un genre très prisé des Anglais, hein, quand même. C'est une parenthèse. Ça me fait penser à cette merveilleuse nouvelle de l'humoriste britannique Saki, qui s'appelle Le Bœuf en visite. C'est quelqu'un qui est en train de peindre un bœuf comme ça sous un pommier. Et puis d'un seul coup, le bœuf entre dans son salon et vient un peu déranger ses affaires. C'est merveilleux. Bon, je ferme la parenthèse. Les Anglais, les Américains aiment beaucoup ça. Elle va devenir l'amie de Buffalo Bill.
Tout à fait. Elle a d'abord un agent extraordinaire qui s'appelle Gambard, qui envoie des images de ses œuvres dans tous les pays. Et Gambard va organiser un truc démentiel qui est la tournée des tableaux comme si c'était des pop stars, qui arrivent à la Nouvelle-Orléans, qui arrivent à Philadelphie, des milliers de personnes qui viennent le voir. Et quand il y a l'exposition universelle à Paris...
En 55.
Il y a Monsieur Buffalo Bill qui arrive dans la plaine de Neuilly et qui installe ses chevaux, ses tentes et ses Indiens. Et elle va faire son portrait. Il y a une amitié, on pourrait dire une amitié virile entre les deux, magnifique. Elle va faire son portrait et quand Buffalo Bill repart...
Ça, c'est l'expo de 67 alors, hein,
voilà,
plutôt, pardon.
Le cavalier du Far West repart chez lui aux Amériques. Eh bien, un jour, malheureusement, sa maison a un incendie, victime d'un incendie. Et là, il n'a qu'un réflexe. Il dit « Sauvez le Rosa Bonheur ».
C'est incroyable. Et, c'est le tableau qui sera offert ensuite au musée
C'est le tableau de Buffalo Bill. C'est un tableau équestre, Buffalo Bill, à cheval.
Alors, Rosa Bonheur a peint essentiellement des animaux, disons-le. Mais pas seulement des vaches et des chevaux, elle a peint aussi des animaux sauvages. Il lui arrivait de peindre des lions. Elle en a eu d'ailleurs des lions, elle.
Oui, alors elle est comme Sarah Bernhardt, elle vit avec des animaux chez elle. Alors quand vous arrivez chez Rosa Bonheur, vous commencez dans l'entrée par tomber sur Boniface. C'est pas le maître d'hôtel, de valet de chambre, c'est un singe qui vous accueille dans l'entrée. Puis alors attention, parce que quand vous prenez le couloir, là, faites gaffe de pas heurter Kiki, parce que c'est un sanglier qui a ses habitudes dans le couloir. Enfin, vous arrivez dans l'atelier de la peintre Rosa Bonheur, et vous avez souvent ce merveilleux couple de lions et de lionnes qu'on va retrouver en photo avec elle, vautrée dans l'herbe du château de Bille.
Alors elle fait plaisir aux Anglais, elle fascine les Américains, mais elle est reconnue en France aussi, notamment par la famille impériale. On est sous le règne de Napoléon III et l'impératrice Eugénie va venir rendre visite personnellement à Rosa Bonheur dans son atelier près de Fontainebleau, au château atelier de Bille. Bille, ça s'écrit B-Y, c'est tellement joli. Et nous allons revivre cet épisode dans un instant.
Sur Europe 1 de la symphonie pastorale de Beethoven, Franck.
Vous avouerez que ça s'impose.
Évidemment.
L'impératrice Eugénie, au début de l'été 1864, séjourne avec la cour à Fontainebleau. Elle décide d'aller rendre visite à la grande artiste de la région, cette peintre animalière dont elle a déjà eu l'occasion de dire qu'elle appréciait les toiles. Alors il faut imaginer l'impératrice qui se présente au milieu de l'après-midi dans le fracas de tout son train d'équipage. Il faut voir la poussière que soulève l'arrivée de toutes les voitures avec ce beau monde, des cochers, des postillons, des gardes, des gendarmes évidemment, mais aussi des officiers de la cour en grande tenue, les dames d'honneur avec leurs grandes robes à cerceaux, enfin, tout ça est très impressionnant. Une gravure aquarellée d'Amblard a conservé le souvenir de cette visite. On est dans l'atelier qui est celui que nous connaissons toujours, il a vraiment très peu changé. La toile en cours sur le chevalier, c'est le cerf sur les longs rochers. Et c'est aujourd'hui une toile qui se trouve à New York. L'impératrice est en robe de promenade, velours bleu sombre et petit chapeau à plumes de la même couleur. Elle se montre très agréable, très prévenante, elle veut tout voir. Et puis, presque aussi vite qu'elle était entrée dans l'atelier, la voilà qui déjà s'éclipse dans le tourbillon de sa suite, laissant la peintre pantelante, éberluée, très fière. Et voici ce que Rosa Bonheur, dans une lettre à son frère Auguste, raconte le soir même. « Sa Majesté est venue me surprendre avec toute sa cour. Tu peux t'imaginer combien j'aurais d'abord voulu me cacher dans quelques trous de souris. Heureusement, j'ai seulement eu à retirer ma blouse et à mettre une veste, mais dans ma hâte, je ne pouvais sortir ma tête de la blouse. Alors, je me suis libéré juste à temps. Hippolyte était là pour m'aider, simplement et très gentiment, à montrer mes esquisses pleines de poussière. Quand je l'ai raccompagnée, elle parle de l'impératrice, des Français, quand je l'ai raccompagnée à son équipage, elle m'a tendu sa main et j'ai cru devoir l'embrasser. Avec la plus grande bonté, cette souveraine, dont la simplicité et l'amabilité ajoutent à sa distinction, m'a fait l'honneur de m'embrasser. Je ne crois pas qu'une plus haute marque de faveur et d'estime aurait pu être montrée. Il ne faut pas que j'oublie de parler de l'invitation au château et l'annonce d'une visite probable de l'empereur lui-même. Et à sa sœur Juliette, elle précise « J'espère faire un saut à Paris, mais on m'a donné à comprendre que je pourrais avoir la visite de l'empereur, donc je ne suis pas sortie, et tu sais comme je déteste être enfermée. De plus, il a fallu subir les essayages d'une robe à traîne et en même temps être sur le qui-vive pour qu'on ne me surprenne pas en pantalon. J'essaie de suivre les bons conseils de notre tante qui se lamente toujours que j'ai abandonné les avantages du plus charmant, gracieux et beau des sexes. Je tourne gracieusement ma tête devant la glace pour me voir derrière exactement comme ton garçon René, puis je donne un élégant coup de pied pour mettre en ordre la traîne majestueuse. Ma coquine de sœur peut imaginer combien je suis chic en harnais. » Finalement, tout ça pour pas grand-chose puisque l'empereur ne viendra pas à Bi. Mais il fait inviter l'artiste à déjeuner à Fontainebleau, 15 jours plus tard. Et pendant tout le déjeuner, il lui parle de l'intelligence des animaux. C'est bien Napoléon III, ça. Le fils du couple impérial, le petit prince impérial, viendra lui aussi visiter l'atelier et il va demander, le gamin, à voir la peintre en blouse et en pantalon, ce qui est la preuve que c'était bien une curiosité qui faisait jaser à l'époque. Un an plus tard, le 10 juin 1865, l'impératrice est de retour à Bi en tant que régente en titre. Puisque l'empereur lui a confié la régence le temps d'un voyage en Algérie, eh bien, elle va en profiter. Figurez-vous qu'elle entre dans l'atelier, elle sort d'un petit écrin une belle croix en or de la Légion d'honneur et elle l'épingle sur la veste de l'artiste. C'est la première fois qu'une femme artiste reçoit la Légion d'honneur en France. D'habitude, les femmes qui avaient été déjà récompensées l'étaient pour un acte de bravoure ou un service déclaré. J'ai voulu que le dernier acte de ma régence fût consacré à montrer que le génie n'a pas de sexe, dit l'impératrice. Pour marquer l'importance que j'attache à ce grand acte de justice, je ne veux pas que vous fassiez partie d'une fournée. Une fournée, c'est-à-dire toute une liste de nominations dans la Légion d'honneur. Je ne veux pas que vous fassiez partie d'une fournée. Votre nomination paraîtra avec un retard d'un jour et vous serez l'objet d'un décret spécial qui sera mis en tête du moniteur.
Composé par Charles Gounod sur Europe 1, Franck.
On est dans toute cette belle musique de l'époque. Il y a toute une atmosphère, évidemment, de ce milieu du 19e siècle et de ce second empire triomphant. Ça a été une très grande joie, peut-être l'une des plus grandes pour Rosa Bonheur, que d'être ainsi décorée de la main même de l'impératrice Gonzague Saint-Brice.
Tout à fait, parce que c'était une femme indépendante, c'était une pionnière des droits de la femme. Elle l'était plus, d'ailleurs, par l'exemple que par la proclamation. elle ne profère pas des idées nouvelles, mais sa réussite elle-même, et une réussite internationale, montre qu'elle dépasse tous les milieux. Bien sûr, vous avez raison de parler de ce monde du Second Empire, puisque deux de ses commandes vont venir de cette époque romantique. L'une est le duc de Morny et l'autre est le duc d'Aumale. Mais en fait, elle a tout de suite cette dimension internationale qui va faire que, par exemple, quand elle va en Angleterre, après un voyage en Écosse où elle a peint des moutons...
D'ailleurs, l'impératrice, pendant sa visite, lui commande un tableau qui s'appelle « Moutons au bord de la mer », qui est aujourd'hui à New York aussi. D'ailleurs.
Absolument. Victoria est passionnée par Rosa Bonheur.
Et la reine d'Angleterre aussi, oui.
Et donc, voilà qui est cette personne. Et on se demande aujourd'hui comment elle peut être si peu connue après avoir été si immensément célèbre. C'est un mystère parce qu'elle était tellement, tellement fameuse qu'il y a une histoire extraordinaire. C'est qu'elle a une amie qui est dans le train, qui traverse l'immense plaine américaine du Nevada. Et ça va à toute vitesse, c'est presque un TGV dans cette immensité. Et tout d'un coup, cette amie...
L'amie en question, c'est Anna Klumpke.
Qui arrête le contrôleur et qui dit « Monsieur, est-ce que vous pourriez arrêter ce train à toute vitesse ?» Ah bon, il la regarde, mais il dit « Mais vous êtes dingue, vous voyez pas que c'est pas possible, on peut pas freiner comme ça. » Et elle dit « Mais c'est parce que j'ai vu une botte d'herbe qui était vraiment magnifique. » « Ah bon, madame, je crois que vous êtes un peu dérangée. Mais vous savez, c'est pour la ramener en France, cette botte d'herbe de la plaine américaine. C'est pour une amie qui s'appelle Rosa Bonheur. » Et là, le contrôleur dit « Comment ? How ? What ? It's Rosa Bonheur. So we stop the train immediately. » Et effectivement, ils arrêtent le train. Et comme ça, elle ramène sa botte d'herbe à Rosa Bonheur.
Elle avait, au-delà d'un égo sans doute assez développé, hein, elle mène une vraie carrière, elle est très heureuse des reconnaissances qui lui sont données, elle remporte beaucoup de prix, il faut le dire, elle va d'ailleurs être bientôt dispensée de jury pour le salon, c'est encore plus simple, c'est-à-dire que c'est comme elle remporte tous les prix, finalement, elle n'a plus besoin de présenter ses toiles à l'avance à la commission de sélection, les toiles sont d'emblée exposées. Elle reçoit donc la Légion d'honneur, ensuite elle est faite officier de la Légion d'honneur, sous un autre régime, hein, sous le régime de la Troisième République.
Avec Sadi Carnot qu'elle adore.
C'est ça. C'est le président Sadi Carnot qui va la décorer. Tout ce côté-là semble mis au service de la cause des femmes. Il y a chez elle une volonté. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est féministe, en commettant évidemment un anachronisme, hein, mais est-ce qu'il y a cette dimension en quelque sorte militante chez Rosa Bonheur ?
Alors justement, elle est militante, mais d'une façon à sa manière, c'est-à-dire que c'est pas une militante qui essaye de faire que les autres la suivent. Elle est militante par l'exemple. Et vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important. Vous savez, la plus grande femme romantique du 19e, c'est Madame de Staël, qui a dit cette phrase extraordinaire, « La gloire pour les femmes est le deuil éclatant du bonheur. » Les femmes ne peuvent pas avoir le véritable amour et la gloire. Eh bien non, Rosa Bonheur donne la preuve du contraire, parce que elle obtient la gloire, elle obtient toutes les reconnaissances et toujours par la vertu de l'exemple et de l'exemple à travers son art qui lui-même est pionnier. C'est vrai qu'elle a toujours œuvré, je ne dirais pas pour le féminisme, mais pour ce qu'on appelait à l'époque l'émancipation de la femme. Et en plus, elle était contre les guerres et elle a dit que cette façon de ces hécatombes dont s'enorgueillit notre histoire, elle est contre ça. Et elle dit « Dieu veuille que le XXe siècle ne dispute pas au XIXe le privilège d'avoir réinventé la poudre. Si les nations s'entendaient pour employer leurs ressources au perfectionnement de l'agriculture, à accélérer les transports et l'éducation des jeunes filles, que de changements heureux, que de félicités sur la terre, toute l'activité humaine doit tendre à rehausser l'âme. » Et là, je crois qu'en cette journée de la femme, internationale de la femme que vous avez choisie pour parler de Rosa Bonheur, Franck Ferrand, on peut citer le plus beau de ces mots, « La femme est le messie des siècles à venir. »
Donc elle avait cette... cette fibre, évidemment. N'oublions pas que nous sommes en face d'une artiste. Nous parlions d'un certain nombre de ses grandes toiles tout à l'heure, du marché aux chevaux, de labourage nivernais. Dans labourage nivernais notamment, au-delà de la description assez ultra, hyper réaliste des vaches, enfin des bœufs eux-mêmes, il y a un traitement de la lumière qui est très particulier. On a l'impression de quelque chose qui est plus que photographique. On a l'impression que la lumière irradie de cette toile. C'est assez extraordinaire.
Vous avez tout à fait raison, parce que d'abord, nous nous situons dans une période de la France qui est une période pastorale. Maintenant, la majorité des Français vivent dans des villes. Alors, la majorité des Français vivaient à la campagne. Et on retrouve dans cette réverbération du ciel et de la couleur.
Presque tremblotante.
Et de l'astre sur le pelage des animaux, des teintes, des couleurs, des subtilités et des nuances qui nous ramènent à cette jeune fille qui allait au Louvre regarder les tableaux de Rubens.
Et ces tableaux à elle sont encore aujourd'hui très appréciés, mais encore une fois, plutôt à l'étranger, un petit peu moins en France.
Elle a inventé quelque chose d'inouï, qui est la tournée de stars des tableaux que son agent avait organisé. C'est-à-dire que les gens se rendaient de ville en ville pour voir des tableaux qui voyageaient tels des pop stars et les applaudir.
On parle encore quand même de Rosa Bonheur. Son nom est un peu partout. Il a même donné son nom à une guinguette. Voilà, je cherchais le terme.
Qui
se trouve au Buchemont. Vous la connaissez, Julien?
Oui, je la connais. Elle est très charmante.
Ah,
ouais.
Vous connaissez, Julien?
Oui.
C'est the place to be.
Exactement. Elle est très à la mode.
Oui. Très à la mode. Il y a beaucoup de jeunesse. Et j'invite tous les auditeurs d'Europe 1, car je vais y donner une signature ce soir, entre 18h30 et
20h30, apparemment, je l'ai là sous les yeux.
Et
oui.
C'est au Buchemont, c'est le métro Botzaris, et c'est l'avenue de la Source, je crois. C'est très joli, c'est pastoral, et ça s'appelle Rosa Bonheur.
Signature.
Déjà, ce nom est incroyable.
Ah oui, c'est formidable que ça existe. Signature de Maître Saint-Brice, donc à la guinguette Rosa Bonheur, ce soir. Le titre de la manifestation, c'est cette phrase que vous avez dite tout à l'heure qui est si belle. La femme est le messie des siècles à venir.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Sur Europe 1 du grand galop chromatique de Franz Liszt.
Merci à Franck et à Julia, nous dit Marjorie, qui ont bien compris que nous célébrons aujourd'hui la journée des femmes,
exactement.
Car comme les étoiles du ciel, nous sommes aussi nombreuses que différentes. Et oui, heureusement, c'est ce qui nous ravit. Nous avons en ligne, parce que nous parlions tout à l'heure de cet atelier, de ce château-atelier de Bie, tout près de Fontainebleau, où a si longtemps résidé Rosa Bonheur, et de cet atelier qui restait quasiment intact, eh bien nous avons en ligne le propriétaire de ce musée privé, Nicolas Sorel-Dégerine. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur Ferrand, bonjour monsieur Saint-Brice.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors votre arrière-grand-tante a été la dernière élève de Rosa Bonheur.
Voilà, ça a été la dernière élève. Elle est venue un jour à Bie pour rencontrer l'artiste et discuter un peu avec elle de techniques professionnelles. Et elle n'est jamais repartie. Elle est restée jusqu'à la mort de celle-ci en 1899.
Et donc maintenant, c'est vous qui êtes propriétaire, qui vous occupez de cet endroit. C'est devenu un musée, c'est ouvert au public. Expliquez-nous.
Alors, c'est un musée qui est ouvert au public. C'est un musée qui est ouvert tous les jours, enfin deux jours par semaine. Je dois dire que nous travaillons avec la mairie de Thomery en partenariat depuis 30 ans. Et grâce à elle et au syndicat d'initiative, on peut faire ouvrir ce musée qui reste un musée privé, mais qui est quand même ouvert régulièrement avec des personnes de qualité qui le font visiter. Donc je conseille à tout le monde d'aller le voir parce que c'est un musée qui reste très vivant. Et quand on y arrive, on rentre dans cette grande pièce qui est exactement telle qu'elle quand Rosa Bonheur est décédée. Et on peut s'attendre
avec cette grande cheminée, les bois de serre, etc. Hein, c'était très très haut de plafond, bien entendu, puis cette grande verrière, c'est un atelier. On est là dans toute une atmosphère très spécifique qui est exactement la même que celle qu'on a effectivement sur la gravure représentant la visite de l'impératrice Eugénie en juin 1864.
Exactement ça. On retrouve les objets quasiment à la même place.
Là, ça fait partie du réseau Maison des Illustres, hein, vous avez le label.
Alors, c'est gentil d'en parler. On a été sélectionné, on a obtenu cette année, pour la première fois, puisque c'est tout nouveau, ce label Maison des Illustres qui a été fait par Frédéric Mitterrand cette année. On a été donc nommé à ce titre parce qu'on répondait à des critères de qualité qui sont les critères de ce nouveau label.
Alors d'un point de vue très pratique, il faut, comme on dit, battre le fer tant qu'il est chaud. Si nos auditeurs ont envie d'aller visiter l'atelier de Rosa Bonheur, comment doivent-ils s'y prendre ?
Il faut rentrer en contact avec le syndicat d'initiative de Thomerie ou la mairie de Thomerie, mais le syndicat d'initiative est celui qui s'en occupe, qui le gère le plus. Et c'est ouvert le mercredi et le samedi après-midi de 14h à 17h.
Eh bien, ça laisse 48 heures à attendre pour ceux qui seraient trop impatients. Merci beaucoup, Nicolas Sorel-Dégérine. Vous êtes,
je le rappelle,
le propriétaire de l'atelier de Rosa Bonheur à Thomerie, dans cette maison, d'ailleurs, passionnante. Ça fait un peu penser, dans un autre registre, mais enfin, quand même, ça fait un peu penser à la maison de Zola à Meudon. Hein. C'est
tout
un peu
fait,
la même histoire.
Tout à fait, hein. Ces briques et cette verdure merveilleuse. Et puis, ce n'est pas très loin du... C'est à 12 kilomètres du château de Fontainebleau. Ah. Il faut dire qu'il y a deux salons qui possède des dessins, des dessins préparatoires merveilleux de Rosa Bonheur.
La maison des rois, le palais des siècles, disait Bonaparte à propos de cette merveille du château de Fontainebleau. On essaie toujours nous dire aux auditeurs qu'il faut aller à Fontainebleau, c'est sans doute une des grandes merveilles du patrimoine français.
Mais ce qu'il y a de commun entre le château de Bie et le château de Fontainebleau, c'est l'origine renaissance des deux bâtiments.
Et puis on n'est pas très loin quand on se promène dans la région de Barbizon, évidemment. Est-ce que Rosa Bonheur, Gonzague, peut être considérée comme une sorte de précurseur de l'école de Barbizon ?
Alors écoutez, comme elle est plutôt dans le décalage horaire de l'histoire, elle a à la fois précédé l'école de Barbizon et elle va lui survivre. Et c'est véritablement sa qualité de traverser et de voyager à travers et l'espace et le temps.
J'aimerais que vous nous disiez, si vous l'avez mis en exergue de votre livre, ce poème étonnant de Jacques Prévert à propos de Rosa Bonheur.
À Fontainebleau, devant l'autel de l'Aigle Noir, il y a un taureau sculpté par Rosa Bonheur. Un peu plus loin, tout autour, il y a la forêt. Et un peu plus loin encore, joli corps, il y a encore la forêt et le malheur, et tout à côté le bonheur. Le bonheur avec des yeux cernés, le bonheur avec des aiguilles de pin dans le dos, le bonheur qui ne pense à rien, le bonheur comme le taureau, sculpté par Rosa Bonheur, et puis le malheur avec une montre en or, avec un train à prendre, le malheur qui pense à tout, à tout, à tout, à tout, à tout, et à tout. Et qui gagne presque tous les coups. Presque. Jacques Prévert, presque.
C'est un joli poème et qui évoque en plus assez bien cette atmosphère et cet endroit.
Oui, parce qu'à Fontainebleau, il y avait une statue d'un taureau par Rosa Bonheur. Car elle était évidemment aussi sculpteur, qu'elle a laissé un peu la place à son frère, qui était également sculpteur.
Les quatre enfants étaient tous artistes. Ils étaient les fils quand même de Raymond Bonheur, qui n'a pas laissé un très grand nom dans la peinture, mais qui a voulu que ses enfants puissent s'exprimer à travers l'art, qui leur a donné tout son savoir, car bien entendu, à cette époque-là, il n'était pas coutume que les femmes suivent des cours dans les écoles d'art, bien entendu.
Tout à fait.
Donc elle était autodidacte, Rosa Bonheur.
Et il faut rajouter que sa mère a un rôle extraordinaire, car sa mère lui a toujours dit, lui a fixé cet objectif, tu dois dépasser comme peintre Madame Vigée-Lebrun.
Madame Vigée-Lebrun, grande portraitiste du 18e et du tout début du 19e siècle. Finalement, elle aura fait des portraits, Rosa, mais pas tout à fait les mêmes. Les modèles qu'elle choisit sont des modèles plus bovins, si je puis dire.
Hein. Tout à fait.
Il y aura chez elle aussi, je pense qu'il faut insister sur cet aspect-là, la volonté, en quelque sorte, de de s'auto, j'allais dire de s'autofinancer, de vivre de son art et d'être le plus indépendante possible. Il y a cette dimension-là. Elle n'est pas une dilettante.
Et finalement, puisqu'elle a eu ce grand succès aux États-Unis, sa manière de gérer son fonds de création était un peu américaine, on pourrait dire. Et elle anticipe là aussi le marché de l'art qui, après elle, va devenir tellement international. Là aussi, elle est une pionnière.
Je rappelle donc les titres des deux biographies qui sortent à peu près en même temps sur Rosa Bonheur. Celle de Marie Borin, Rosa Bonheur, une artiste à l'aube du féminisme, c'est publié chez Pygmalion. Et puis la vôtre, Gonzac Saint-Brice, Rosa Bonheur, Liberté est son nom, c'est chez Robert Laffont, un livre que vous signerez notamment pour les auditeurs d'Europe 1, très spécialement ce soir, donc ce jeudi, entre 18h30 et 20h30 à la Guinguette. Rosa Bonheur, ça ne s'invente pas, de aller de la Cascade dans le 19e, c'est au métro Botzaris, c'est juste à côté du parc des Buttes-Chaumont. Je me rends compte que j'ai oublié de descendre votre album sur Victor Hugo, mais vous pouvez peut-être nous en dire un mot quand même.
Voilà, c'est les 150 ans du roman Les Misérables, et c'est aussi l'anniversaire de la naissance de Victor Hugo à Besançon, et donc nous avons pris le parti de faire un album avec des dessins de Philippe Lorrain, donc ça peut être lu par tous les âges, pour rendre hommage à celui qui se caractérisait à la fois par la pluridisciplinarité de ses dons, homme politique, dessinateur, photographe, décorateur.
C'est très graphique comme album, il faut dire. Hein.
Tout à fait. Et aussi par son énergie, puisque Victor Hugo avait dit cette phrase « Je suis une force qui va ».
Eh oui, et qui va toujours. Hein. Aujourd'hui, c'est on dur. Est en train de tourner en ce moment même une nouvelle adaptation via la comédie musicale des Misérables. Il y en a eu tellement, bien entendu.
30 millions de spectateurs de la comédie musicale Les Misérables qui avait commencé comme Rosa Bonheur à Londres et à New York.
Ça fait partie de ces succès incroyables. Et à l'époque où, à Guernesey, Victor Hugo était en train d'écrire Les Misérables, eh bien, tranquillement, dans son atelier de billes, tout près de la forêt de Fontainebleau, Mademoiselle Rosa Bonheur peignait des taureaux, des vaches, des moutons.
C'est pourquoi j'ai voulu que ces deux livres qui n'ont pas été écrits au même moment paraissent en même temps. Un homme de liberté, Victor Hugo. Une femme de liberté, Rosa Bonheur.
Merci aussi à tous nos auditeurs qui n'ont pas arrêté pendant cette émission de m'envoyer des messages pour nous remercier de l'émission d'hier soir sur France 3, cette émission que nous avons consacrée à la guerre de Vendée.
Magnifique.
Ça nous fait plaisir que vous ayez pensé à nous remercier. Merci beaucoup. Et puis, je salue, c'est le jour ou jamais de le faire, je salue Lorena, je salue Élodie et je salue Elena Morna.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.